Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Dans le Devoir ce matin, on se penche sur l'engouement que suscite l'Ozempic sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est un médicament qui est conçu pour traiter le diabète de type 2, mais il peut aussi entraîner une perte de poids importante rapidement. Alors là, les récits se sont multipliés sur différentes plateformes, notamment TikTok, Facebook, pour tenter d'y voir plus clair. On s'est dit, on va en discuter avec Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à la faculté donc de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Diane.
Bonjour Alexandre.
Bon, alors je l'ai dit très brièvement là, l'Ozempic, mais initialement, c'est conçu pour traiter le diabète de type 2, hein?
Oui, et c'est un médicament qu'on réserve dans les étapes de traitement. Là, on ne donne pas ça pour le début d'un traitement. On a plusieurs autres médicaments qui sont connus depuis beaucoup plus longtemps, qui ont fait leurs preuves et qui sont vraiment des médicaments par étapes. Et donc, l'Ozempic arrive après plusieurs médicaments qu'on peut prendre sous forme de comprimés et même très souvent après l'insuline, en complément, en fait, très souvent de ces médicaments, de cette médication. C'est intéressant, c'est un ajout qui aide à contrôler les cibles qu'on vise, l'hémoglobine glycée, entre okay. autres, là, avec pour les patients diabétiques de type 2, là, donc c'est pas le diabète de type 1 qui commence en général chez les enfants. Mm-hmm. Et donc, c'est un médicament intéressant, sauf que lorsqu'on l'utilise pour d'autres indications qui s'avèrent être quelque part certains effets secondaires de ce médicament-là. C'est-à-dire que c'est un médicament qui augmente la production de l'insuline, mais qui envoie au cerveau des signes comme quoi on diminue l'appétit, en fait. On a des signaux okay. de satiété. Donc, on a moins faim, on a moins d'appétit. Mm-hmm. Et aussi, on peut avoir comme effet secondaire, ça arrive assez souvent, des vomissements, de la diarrhée. Alors, tout ça fait en sorte que les gens perdent du poids lorsqu'ils prennent ce médicament-là. Plusieurs d'entre eux, en fait, bénéficient de cette perte de poids. Mais de là à dire que le médicament doit ou peut être utilisé par n'importe qui pour cette indication-là, là, vraiment, il faut éviter ce genre de conséquences, de déductions.
Mais est-ce que c'est légal, Diane, pour les médecins, par exemple, de le prescrire, non pas pour traiter le diabète de type 2, mais vraiment pour entraîner une perte de poids?
Oui, ben c'est pas une indication qu'on dit homologuée. Okay. Mais ça arrive que, par exemple, s'il y a des publications, des études cliniques, même si c'est pas dans la monographie, mm-hmm. S'il y a des avancées thérapeutiques, oui, on peut à ce moment-là, les médecins peuvent prescrire le médicament. Mais dans ce cas-ci, ben là, il faut aussi tenir compte de l'impact des réseaux sociaux et de tout ce qui tourne autour de ça. Et le médecin se doit de donner aussi l'heure juste à ce moment-là à son patient parce qu'il y a quand même des conséquences à ça.
Parce qu'on cherche la pilule miracle, hein, ultimement, souvent.
On cherche tous ça. C'est sûr qu'on voudrait tous prendre un comprimé puis perdre 10 livres le lendemain ou 3-4 kilos, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et le corps ne fonctionne pas comme ça non plus. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec ces façons. Et si, par contre, ça peut être une piste. Tu vois, alors, cette catégorie de médicaments qui s'appelle des agonistes du récepteur GLP-1, ben, on voit que ça donne ça comme effet secondaire, mais ça donne d'autres effets secondaires aussi. Ça peut toucher les reins, ça peut toucher le pancréas, ça peut donner d'autres effets secondaires. Et donc, quand on trouve comme ça un impact, ben on peut à ce moment-là travailler à développer une molécule qui va être plus précise et qui va avoir moins d'effets secondaires et qui va faire que l'effet recherché qui serait vraiment à ce moment-là strictement la perte de poids serait vraiment plus encadré. Les études auraient été faites pour évaluer cet impact-là. Alors, tu vois, un patient diabétique de type 2 avancé dont le diabète n'est pas bien contrôlé, c'est risque d'avoir une insuffisance rénale, donc une détérioration du fonctionnement de ses reins, ils sont élevés. Alors, si on donne un médicament qui aide à contrôler le diabète et qui a un risque, lui, d'affecter les reins, ce ce qui est le cas d'Ozempic, ben cet effet-là, il est pris en compte considérant le risque que le patient a d'avoir déjà cet effet-là. Mais si je suis en parfaite santé ou si j'ai un diabète très léger et que je suis pas visée par cet effet-là, ben là, l'effet secondaire du médicament, là, du sémaglutide, lui, il devient démesuré par rapport aux bénéfices potentiels.
J'ai fait un peu le saut, je dois t'avouer, lorsque j'ai pris connaissance des chiffres du devoir, des données obtenues de la RAMQ, là, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, où le nombre de personnes qui ont une prescription, pour toutes sortes de raisons, là, concernant l'Ozempic, on est passé de 3 en 2018 à 36 500 aujourd'hui.
Oui, ben en fait, ça dépend toujours aussi de la date où le produit a été homologué.
Ah, okay.
Homologué à la toute fin de l'année. Mais il reste que c'est sûr que depuis 2 ou 3 ans, c'est un médicament qui gagne en reconnaissance au niveau de l'impact. Mm-hmm. Mais ça doit être ciblé chez les gens qui ont vraiment cette indication-là. L'Australie actuellement est soumise à une situation où la prescription de ce médicament-là est tellement populaire qu'ils ont peur d'avoir une pénurie de médicaments.
Ah, oui, hein?
L'agence de médicaments dit attention, elle dit aux médecins, soyez vigilants, assurez-vous que les patients qui vous demandent ce médicament-là ont vraiment l'indication appropriée, la maladie appropriée et le niveau de gravité de la maladie pour justifier ce médicament-là. Au Québec, c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui souffrent de diabète de type 2, donc c'est encore raisonnable. Et pour l'avoir remboursé par la RAMQ, il faut déjà avoir rencontré d'autres critères, donc plus spécifiques. Sinon, il faut que les gens le déboursent. Alors, ça contribue un peu à restreindre l'utilisation pour d'autres raisons strictes que le contrôle d'un diabète type 2 avancé.
Donc, si quelqu'un, par exemple, voulait prendre ce médicament-là uniquement pour des raisons de perte de poids, ce ne serait pas nécessairement remboursé, là, c'est ce qu'on comprend.
C'est ça. Actuellement, les critères de la RAMQ sont plus rigoureux à ce niveau-là et c'est un médicament qui est quand même dispendieux. C'est en injection aussi, donc c'est une fois par semaine. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle actuellement pour contrôler le poids. Il faut y aller progressivement. Il faut essayer d'avoir une saine alimentation, de bouger. Même la marche, une marche régulière est un bon exercice pour les patients diabétiques. Et bien suivre la médication qu'ils ont déjà. Et ça protège très bien à ce moment-là contre les effets secondaires à long terme du diabète, parce qu'ils ont le diabète en cause des effets au niveau de perte de la vision, au niveau rénal, au niveau des vaisseaux sanguins. Alors, il y a plusieurs conséquences au diabète de type 2. Donc, pour les gens qui ont un diabète qui n'est pas bien contrôlé, c'est une valeur ajoutée, c'est intéressant. Mais pour une perte de poids qui n'est pas associée au diabète ou qui est associée à un diabète très léger, à ce moment-ci, il faut vraiment être très prudent. Et je pense que là, il y a une alerte qui se donne aussi dans le milieu médical au fait qu'il faut choisir les patients adéquatement pour prescrire ce médicament-là.
Diane, en terminant, j'aimerais pouvoir profiter aussi de ton expertise sur la question de la COVID, hein, parce que c'est pas fini. Il y a un point de presse cet après-midi du directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau. D'une part, tu t'attends à quoi? Et d'autre part, tu as certainement vu, comme moi, les résultats de ce sondage léger ce matin qui nous démontrent qu'il y a à peu près la moitié des gens qui envisagent de recevoir une dose de rappel prochainement. Il y aura du travail à faire, non?
Oui, mais c'est certain. Je pense que les gens ont une certaine lassitude de la pandémie et dans ces cas-là, je pense qu'on essaie de faire comme si le virus, ses variants n'existaient plus. Pourtant, on le voit bien, tout le monde connaît encore quelqu'un aujourd'hui qui a la COVID. Hier, 21 décès quand même qui ont été enregistrés. Alors, il y a pour les gens vulnérables un risque. Moi, je vois quand même dans ce sondage-là, c'est sûr que là, on a posé la question de façon très générale, mais quand on regarde concrètement, il y a déjà un tiers des gens qui ont déjà reçu 4 doses. Donc, eux, pour l'instant, il n'y a pas l'indication, là, s'ils n'ont pas eu depuis, s'ils ont eu leur dernière dose depuis moins de 5 mois, ils sont pas, donc, si on posait la question à ces gens-là, déjà, pour le tiers de la population, ils diraient, ben non, j'irai pas parce que je suis pas éligible et parce que je viens juste de me faire vacciner. Alors, le sondage ne permettait pas d'avoir cette nuance-là. Mais on sait que, chez certains groupes de plus jeunes, la motivation est moins là. Et moi, ce que je veux juste dire, c'est que, Il n'y a pas de recette parfaite, mais c'est pas grave si on a besoin de plus de 2 doses. Tu sais, la notion de ah, j'ai eu 2 doses, c'est assez, j'en veux plus, ça tient pas la route parce que le virus s'est transformé. Il y a eu des mutations et pour réagir à ces mutations-là, on le voit quand on va chercher une dose de rappel. Comme pour d'autres vaccins, on a besoin de doses de rappel. Ben, on augmente beaucoup nos taux d'anticorps et donc on évite en grande partie la maladie grave et les hospitalisations. Mais alors, je pense que à l'automne, effectivement, il va falloir bien expliquer encore aux gens, mais ça passe par l'éducation, par une meilleure compréhension, puis en donnant l'heure juste sur le fait qu'effectivement, les vaccins, avec le temps, perdent un peu de leur efficacité. Et le virus, lui, avec le temps, il trouve des nouvelles stratégies pour se transformer, pour déjouer nos mécanismes de défense, notre système immunitaire. Alors, on a encore accès, et on est chanceux d'avoir accès à des vaccins qui nous permettent de remonter nos taux d'anticorps et d'être mieux préparés, mieux équipés, d'avoir un meilleur bouclier contre ce virus et ses variants.
Très bien. Merci beaucoup, Diane. À
Bonne
très
journée.
Bientôt. Bye-bye.
Au revoir.